Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. C'est une histoire universelle, vécue par des millions de personnes, tous les jours, aux quatre coins du monde, par des mères le plus souvent. Ce moment précis où leur enfant quitte le foyer, le nid, pour aller s'envoler ailleurs, pour faire sa vie, comme on dit. Un moment à la fois banal et pourtant déstabilisant pour certaines. Comment traverser l'épreuve de cette deuxième rupture du cordon ombilical? Comment vivre sans celui ou celle qu'on a mis au monde, élevé, protégé et qui désormais est un adulte? Bonjour Philippe Besson.
Bonjour.
Ces questions, ces sensations sont celles de votre narratrice Anne-Marie, à qui vous donnez la parole le temps d'une journée très particulière dans votre nouveau roman intitulé « Le dernier enfant » paru aux éditions Julliard. Ou plus exactement, à qui vous donnez les mots pour exprimer ce qu'elle n'ose pas dire tout haut, la douleur de voir son fils Benjamin Théo s'en aller à la grande ville, mais ne rien dire, au contraire, l'aider à faire ses cartons, l'accompagner dans son nouveau chez lui, à déballer les mêmes cartons et rentrer sans avoir montré son chagrin. Un roman que vous dédiez à votre mère, Philippe Besson. Elle est passée par là, elle aussi ?
Oui, un jour j'ai été cet enfant qui est parti et j'étais le petit dernier. J'avais 18 ans et j'ai quitté ma Charente natale pour aller m'installer à Rouen. Donc mes parents m'ont accompagné dans la studette où j'avais emménagé et puis sont repartis. Je me souviens très bien de la voiture qui repart. Et moi, à la différence de Théo dans le livre, j'avais le cœur serré. Mais surtout, j'ai appris incidemment, après coup, parce que mon père a gaffé, que ma mère avait pleuré pendant tout le voyage du retour. Donc déjà, on n'a pas envie de faire pleurer sa mère, donc je me sentais un peu coupable. Mais surtout, j'ai appris, longtemps après, qu'elle avait plongé dans une forme de langueur et de mélancolie pendant des semaines et des mois. Ce qui était d'autant plus surprenant, parce que c'était une femme jeune et une femme active. Donc, je ne voyais pas pourquoi c'était cet état-là. Et puis, en fait, j'ai mieux compris, parce que des années après, j'ai eu une discussion avec elle. Et elle m'a expliqué ce sentiment de vide, ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'inutilité aussi, puisqu'elle avait une fonction de mère. Et puis, tout d'un coup, elle se disait « Mais à quoi je vais servir ?» Ce sentiment de culpabilité aussi, parce que au fond, même si les mères nous aident et nous préparent à grandir et à entrer dans la grande photo du monde, au moment où elles nous lâchent, elles ont quand même le sentiment qu'elles n'ont pas tout à fait accompli leur devoir, qu'elles auraient dû faire mieux. Enfin bon, il y a toujours une forme de culpabilité liée à la maternité, je pense. Et puis ce sentiment d'inconnu qui s'ouvrait devant elle, c'est-à-dire elle s'est dit « qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ?» Et puis aussi, sans doute, l'idée de « est-ce que les jours heureux sont terminés ?» C'est-à-dire « j'ai été heureuse comme mère ». Ce temps a passé vite, et puis tout d'un coup, c'est autre chose qui m'attend, et est-ce que ce sera aussi bien ? Et ces questions sont à la source de ce livre. Voilà.
Beaucoup de questions qui arrivent à un moment précis du départ du troisième enfant.
Oui.
Parce qu'on aurait pu se dire, voilà, elle a déjà eu deux enfants, une fille, un garçon, qui ont quitté la maison. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est l'âge ? Est-ce que c'est le fait que c'est en effet le tout dernier ? Donc l'enfant chéri, en plus c'est un garçon. On va pas mettre non plus à la poubelle toutes ces années freudiennes.
Absolument.
Mais ou est-ce que c'est lié aussi peut-être au fait qu'il a eu un accident, qu'il a frôlé la mort, elle l'a accompagné à l'hôpital, elle a cru qu'il allait mourir. Est-ce que c'est un ensemble de tout cela ?
Je pense que c'est un ensemble de tout cela. Effectivement, d'abord, ça arrive à un moment de sa vie, elle a 50 ans, où sans doute elle se pose des questions, où son équilibre change, où les perspectives aussi. Et donc, elle est plus sans doute vulnérable à ce moment-là. Ensuite, effectivement, c'est le petit dernier, donc les deux premiers sont partis, mais les deux premiers étaient plus âgés. Lui est une sorte d'accident arrivé un peu après. Et donc, là, il n'y aura plus personne. Donc, elle va vraiment affronter ce qu'on appelle le nid vide et l'idée que quand vous rentrez dans la maison, très concrètement, là où il y avait du bruit, du vacarme, des cris, des exclamations, il y aura juste du silence. Que là où il y avait du désordre, il y aura plus rien. Que là où dans une chambre, il y avait des posters, il y aura plus rien sur les murs et dans les placards, il n'y aura plus d'affaires non plus. Donc c'est très concret le vide, donc elle affronte cela avec l'idée évidemment que sans doute c'est irréversible, c'est irrévocable puisque au fond quand les enfants partent c'est extrêmement rare qu'ils reviennent, même si aujourd'hui ils reviennent un peu pour des raisons financières, mais enfin disons que c'est pas la majorité du genre. Et donc elle a l'idée que c'est terminé, que c'est fini, que ça s'arrête maintenant. Donc ça, ça l'a, c'est quelque chose d'assez violent pour elle. Donc oui, ces sensations mêlées ensemble font que tout d'un coup, elle vacille, ouais.
Ce n'est pas une question de génération, parce que vous venez de le dire, elle a 50 ans. C'est pas forcément une question de milieu social,
non.
Mais c'est peut-être lié à son histoire personnelle aussi. Dans la mesure où on l'apprend au fur et à mesure du récit, elle a perdu ses parents très jeunes, donc elle a dû travailler tôt pour subvenir à ses besoins et puis pour payer les traites de la maison qu'elle a souhaité garder. De fait, elle s'est mariée, elle a eu des enfants assez vite. Et c'est comme si Anne-Marie avait été finalement mère avant d'avoir été pleinement femme d'abord. Et épouse ensuite.
Oui, c'est ça son problème. Je pense qu'effectivement, elle commence par être orpheline très jeune, à 20 ans. Donc, il n'y a plus les parents, il n'y a plus les repères. Et donc, il y a aussi un rapport sans doute différent à la parentalité, à la maternité qui s'installe à ce moment-là. Elle rencontre ce jeune homme juste après cet événement tragique et il n'y a pas d'élan amoureux, il n'y a pas une passion folle, il n'y a pas un éblouissement, un emportement, il y a juste l'idée qu'il est là et qu'il la rassure et qu'elle se dit il sera là dans les coups durs. Et donc c'est une histoire qui commence un peu ordinaire, un peu simple, sans élan particulier, mais qui lui convient à ce moment-là. Et puis les enfants arrivent tout de suite et les enfants occupent tout l'espace mental, occupent tout le temps, il faut tout organiser autour d'eux, la vie quotidienne, les vacances, etc. Et ça lui convient, parce qu'au fond, ça lui convient de mettre tous les œufs dans le même panier. Et là, il faut qu'elle réapprenne des gestes qu'elle connaît finalement très peu, puisqu'elle a effectivement sans doute pas vraiment été femme, elle a oublié aussi d'être un peu épouse, peut-être d'être amante, il va falloir qu'elle réapprenne les gestes, c'est-à-dire à refaire couple, à refaire duo avec l'autre. Et vous savez que les études sociologiques démontrent que ce syndrome du nid vide, c'est comme ça que ça s'appelle, provoque des divorces dans un cas sur trois. Parce que les gens, en fait, n'arrivent pas à refaire couple, à refaire famille sans les enfants. Et donc, c'est à ça qu'elle est tout d'un coup confrontée. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, j'ai omis de répondre à votre question, mais je pense que le fait qu'elle ait failli perdre, pardon, son fils à un moment, qu'elle ait craint pour sa vie, c'est aussi quelque chose de terrible pour elle. C'est l'idée que tout est fragile, que les liens sont fragiles. Elle a perdu ses parents, elle a failli perdre son fils dans un accident. Et donc là, elle est renvoyée à une forme de perte irrémédiable, de lien brisé qu'il a. Et ça la dévaste.
Et voilà ce qu'elle dit. J'ai passé presque 30 ans à protéger mes enfants, à m'inquiéter pour eux, à les écouter, et c'est fini. Fini. À quoi je vais servir maintenant? Fermer les guillemets. C'est terrible parce que il y a quelque chose de terriblement cruel aussi et d'ingrat dans cette phrase, et en même temps tout le paradoxe d'être parent. On passe notre temps à faire que nos enfants soient autonomes, grandissent, pour qu'ils puissent partir faire bien leur vie. Et quand ils partent, ben en fait, on est totalement démunis devant ce vide. C'est un paradoxe, mais est-ce que c'est aussi un échec, Philippe Besson?
Eh bien, c'est-à-dire que on pourrait considérer que la plus grande victoire de la mère est son plus grand échec. C'est-à-dire sa plus grande victoire, c'est d'avoir mis un enfant au monde, je veux dire au monde réel, au monde adulte, pas seulement l'avoir accouché, mais de l'avoir fait grandir pour que demain, il puisse justement entrer dans cette photo du monde, aborder un univers qui peut être hostile, etc., et s'y débrouiller. Donc, on peut considérer que c'est une victoire, mais c'est aussi une défaite, c'est un échec, parce que elle le perd irrémédiablement et qu'elle a le sentiment que nul ne saura sans doute le protéger mieux qu'elle, que nul ne le connaît aussi intimement qu'elle le connaît, et que il est pas aussi débrouillard qu'il le croit. Donc, elle est décontenancée par tout ça, mais c'est assez curieux que oui, cette victoire, cet accomplissement, ça soit aussi le moment de la dislocation et d'un échec ressenti, sans doute.
Vous lisiez tout à l'heure, Philippe Besson, vous aussi, vous êtes parti à 18 ans de chez vous et vous avez appris que votre maman, on avait souffert de ce départ. Pourquoi ce livre arrive-t-il maintenant ?
Les livres, je ne sais jamais pourquoi ils arrivent, en fait. C'est assez curieux. C'est-à-dire que ce qui est assez étrange, c'est que on a des besaces comme ça. On a des valises avec des souvenirs dedans et on ne sait pas très bien quand ces souvenirs vont rejaillir. On ne sait pas très bien quand ça va sortir de la boîte. Et puis, ça arrive. On ne sait pas pourquoi. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé à ce moment-là. Alors, je pourrais dire parce que, ayant 50 ans, ayant autour de moi des femmes de 50 ans qui elles-mêmes sont en train de voir leur enfant partir et m'expliquant cela, ça a peut-être ravivé chez moi ce souvenir de ma mère et que peut-être c'est ça l'explication, mais je sais même pas si c'est satisfaisant. C'est juste que les livres, ça arrive, et moi je crois toujours que ça arrive au bon moment, en fait. C'est-à-dire que vous les écrivez quand vous avez l'idée de les écrire et quand vous pensez devoir les écrire. Alors, il y a peut-être aussi l'idée que je paye une dette d'une certaine manière et qu'il faut la payer avant qu'il soit trop tard. Ce que raconte ce livre aussi, c'est tout le silence sur les sentiments, le fait qu'on s'aime sans se le dire et que moi je viens de ça, d'une famille où on s'est aimé sans jamais se le dire et qu'il est trop tard pour le dire à mon père mais qu'il est encore temps de le dire à ma mère. Et donc peut-être que les livres ça sert à ça, ça sert à envoyer des messages pour que les gens les reçoivent et que ma mère en particulier, voilà, à qui il est dédié, comprenne l'importance qu'elle a évidemment dans ma vie et surtout qu'on se souvienne, elle et moi, d'un truc élémentaire, c'est qu'elle a été mon premier amour. Parce que de toute façon, le premier amour dans sa vie, c'est toujours sa mère. Hein. Il n'y a pas d'autre choix. C'est comme ça et c'est très bien. Et donc, c'est aussi ça, on rend hommage au premier amour.
Est-ce que c'est lié aussi au fait, Philippe Besson, que vous n'avez pas d'enfant ?
Alors, ça, le fait que moi, j'ai pas d'enfant, n'est pas, je le vis pas comme une frustration.
Non, c'est pas ce que je voulais dire.
J'ai bien compris, mais je voudrais y répondre comme ça d'abord, avant de venir à la raison. Je le vis pas comme une frustration, d'abord parce que moi, j'appartiens à une génération où, étant homosexuel, j'ai grandi avec l'idée que je n'en aurais pas des enfants. On n'avait ni alliance, ni descendance. On pouvait pas se marier, on ferait pas d'enfants. Donc, j'ai dû faire le deuil de la paternité très jeune. Enfin, je veux dire, voilà, à 25 ans, je me suis dit, j'en aurais pas. Puis c'est comme ça. Bon. Puis après, il y a aussi le fait que je suis sans doute un adulte peureux avec les enfants. Je veux dire par là que chaque fois que je vois les enfants de mes amis, quand ils étaient petits, courir à côté d'une table, je suis convaincu évidemment qu'ils vont s'ouvrir le crâne sur le coin de la table, que quand ils marchent sur un trottoir, je suis évidemment convaincu qu'ils vont aller sur la route et se faire écraser par une voiture. Donc, je suis terrorisé. J'ai toujours peur pour les enfants. Donc, je pense que j'aurais été un père lamentable.
Ou un papa poule.
Ou peut-être. Je ne sais pas si c'est mieux, d'ailleurs. Mais en tout cas, donc voilà. Bon, mais pas de frustration là-dessus. Mais en revanche, oui, ce qui m'intéresse, et là, ça nous ramène pour le coup à l'écriture et à la raison pour laquelle j'écris des livres. Ce qui m'intéresse, c'est justement, n'ayant pas moi-même connu dans ma chair et dans ma vie cette situation d'être parent, j'ai envie de la vivre en littérature, en écriture. Je suis venu à l'écriture des livres pour ça, pour vivre d'autres vies que la mienne, pour être quelqu'un que je ne suis pas, pour investir une psyché, un corps, un mode de fonctionnement qui n'est pas le mien. Et franchement, je n'avais aucune autre chance d'être mère de famille que dans un livre. Ça ne pouvait m'arriver que là. En plus, j'ai choisi d'en avoir trois d'un coup. Vous voyez, mère de trois enfants, moi. Et c'est formidable. Non, mais c'est la magie absolue de ce métier. C'est que vous pouvez être quelqu'un que vous n'avez aucune chance d'être dans la vraie vie. Et ça m'intéresse follement. Parce que, au fond, ce livre, j'aurais pu le raconter du point de vue de Théo, du point de vue du fils. C'eût été plus naturel et plus facile, sans doute. Eh ben non, il fallait le raconter du point de vue d'Anne-Marie, parce que c'est elle qui m'intéressait. C'est elle que je voulais être. C'est d'elle que je voulais être proche. C'est elle que je voulais comprendre. C'est ses mécanismes, ses émotions, c'est sa dévastation que je voulais approcher. C'est ça qui m'intéresse.
De l'écriture, nous allons continuer d'en parler avec vous, Philippe Besson. Mais pour l'instant, je vous propose d'écouter un titre que vous citez dans votre roman, une chanson de Léo Ferré, « Avec le temps ».
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie de Philippe Besson aujourd'hui pour parler de son nouveau roman paru sous le titre « Le dernier enfant » aux éditions Julliard. On l'a dit, c'est la narration d'une femme, d'une mère qui le temps d'une journée tombe dans un abîme suite au départ de son fils Théo qui à 18 ans quitte le domicile familial. Et ainsi en 9 chapitres sont racontés tous les détails de ce déménagement, du petit déjeuner au soir, tous ces petits moments qui la font glisser, elle, dans un autre monde, et ce, en quelques heures. Est-ce qu'il y a aussi un défi littéraire pour vous, Philippe Besson, à tout contenir, une vie presque, en un seul jour, comme Virginia Woolf avec Mrs. Dalloway, par exemple?
Absolument, oui. J'adore l'idée de tout rassembler en une seule journée, parce que c'est un précipité des sentiments, et ça vous oblige à convoquer la mémoire. Et puis j'aime bien, finalement, cette construction presque théâtrale, l'unité de temps, de lieu, d'action, parce que ça rassemble tout. Et puis parce que, voilà, il y a des moments dans l'existence où les circonstances font qu'il faut qu'on fasse le bilan, qu'il faut qu'on fasse le point, et qui sont des points de bascule ou des points de rupture. Celui-là en est un. Donc c'est pour ça que je l'ai raconté comme ça. Et de la même manière, la raconter par les détails, par les gestes concrets, les gestes ordinaires, les gestes du quotidien, ça m'importait. D'abord parce que c'est comme ça, au fond, qu'elle se définit et qu'elle se révèle, Anne-Marie. Et de ce point de vue-là, le personnage, par exemple, de Francesca dans Sur la route de Madison m'a beaucoup inspiré. Vous souvenez, au début du film, elle est entièrement dévouée
du
à son
roman,
mari.
Du roman, si vous voulez bien, d'abord.
Oui, du roman, pardon, excusez-moi. Du roman, puis du film. Elle est entièrement dévouée à ses enfants et à son mari, qui finalement finissent par partir pour quelques jours pour ce concours. Et à ce moment-là, elle va d'ailleurs se rendre compte qu'une autre vie est possible, qu'un autre monde est possible, alors que jusque-là, le monde qu'elle avait, dans lequel elle était pas enfermé, mais en tout cas, c'est une prison qu'elle avait choisie, lui convenait tout à fait. Et c'était aussi un des personnages qui m'inspirait. Et aussi parce que je crois que les gens se révèlent dans les détails. Je me méfie toujours des grandes déclamations, des grandes déclarations, des ostentations, des discours signifiants. Je crois en revanche que les gens, dans les gestes, dans les maladresses, dans les routines, dans les non-dits, dans les sous-textes, dans ce qui leur échappe, disent infiniment plus d'eux que justement lorsqu'ils s'expliquent très clairement. Donc ça m'intéressait de bâtir Anne-Marie sur ces petits gestes-là concrets. Et puis, on a écouté avec le temps juste avant de Léo Ferré, les mots des pauvres gens, je mets ça en exergue. C'est ça aussi, le geste simple, l'idée que ben c'est ça, c'est la vie comme elle est, la vie normale, on va dire.
Justement, on est loin de la bourgeoisie londonienne de oui. Mrs. Dalloway. On est plutôt dans la classe moyenne de la France provinciale. Un milieu vous connaissez bien. Philippe Besson, vous en venez, vous ne le reniez pas. Et même au contraire, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus présent dans vos livres dernièrement, sachant que les trois derniers étaient très autobiographiques. D'où vient ce besoin de revenir à vos origines, Philippe Besson? Alors qu'on vous a connu sur des routes américaines, sur des routes italiennes, avec Proust, avec j'en passe et des meilleurs. Enfin, je veux dire, des lieux beaucoup plus éloignés de vous.
Là aussi, j'ignore s'il y a une raison fondamentale, particulière, qui m'échapperait. Voilà, ça arrive comme ça. Après, je pense que c'est pas néanmoins un hasard que ce livre arrive après, effectivement, les trois livres autobiographiques dans lesquels j'avais essayé de raconter le lieu des origines, là d'où je viens, ce que j'ai connu, etc. Et effectivement, le milieu d'Anne-Marie et Patrick, c'est un milieu que je connais bien. Celui de la classe moyenne, inférieure, on va dire, d'une France qu'on appelle périurbaine, éloignée des grandes villes. Moi, j'ai grandi à Barbezieux, en Charente, qui est une ville de 4000 habitants. Oui, la grande ville la plus proche à 35 km, c'est Angoulême, c'est vous dire. Bon. Mais en plus, j'ai grandi même dans un village après qui s'appelle Lamérac, qui fait 160 habitants et qui n'existe plus, puisqu'à la faveur des recoupements administratifs, il a été fusionné avec le village d'à côté. Donc, c'est terrible de penser que vous avez habité un village qui n'existe plus. Vous venez d'un monde qui a disparu, en fait. Et je voulais raconter ça. Ça m'intéresse de plus en plus de raconter ça. Et puis, ce milieu simple. Voilà, moi, mon père avait 6 frères et sœurs qui sont encore ouvriers ou paysans. Mon grand-père était cordonnier. Chez moi, on a manqué de rien, absolument de rien, mais on faisait attention à tout. Et voilà, c'était comme ça. Quand je suis allé faire mes études à Rouen, mes parents, ils ont pris un crédit, hein, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer ces études-là. Donc, c'est une façon, là aussi, de rendre hommage, de dire ça. Et puis, parce que ça pose toujours, mais c'était déjà en filigrane ici ou là, la question du transfuge de classe. Et donc, la question du traître de classe. C'est-à-dire, moi, j'ai quitté ma classe d'origine et vous posez toujours la question de, est-ce qu'au fond j'ai obéi à l'injonction paternelle qui était de prendre l'ascenseur social et finalement d'obéir au principe du mérite républicain, élève-toi par les études, par le travail, etc., ce que j'ai fait, au moins dans la première partie de ma vie. ou au contraire, est-ce qu'on ne trahit pas quand on va ailleurs? Est-ce qu'on se souvient de là d'où on vient? Et peut-être qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'assume d'être un transfuge, mais je ne suis pas un traître. Et donc, dans les livres, je dis ça aussi. Je raconte que ce monde auquel j'ai appartenu, ben, c'est encore le mien. Ces origines qui sont les miennes, je ne m'en suis pas défait. Je ne les renie pas. Et elles me constituent. Et peut-être qu'effectivement, à 50 et quelques années, 54 ans, c'est le moment peut-être de le dire, parce que voilà, je suis suffisamment adulte ou aguerri pour y arriver. Voilà, ça arrive maintenant. Je crois que c'est là aussi le bon moment.
Et de fait, dans quel état d'esprit étiez-vous en écrivant ce livre, Philippe Besson ?
J'étais porté par une sorte. J'aime le mot, mais c'est bizarre quand on dit ça. J'étais porté par une sorte de grâce quand même. C'est-à-dire que c'était facile, parce que très vite j'ai su qui c'était Anne-Marie. Très vite j'ai su qui c'était Patrick et le fils aussi. Et donc j'étais avec eux. Je les comprenais très bien. Je savais comment ils fonctionnaient. J'aimais les retrouver chaque jour. C'était comme un renouement, oui, sans doute, avec la jeunesse, avec des choses familières. Et puis j'étais fier de les faire exister. Parce que ces gens-là n'existent pas beaucoup en littérature. En fait, et moi-même, je ne les ai pas fait, vous le disiez, beaucoup exister en littérature, parce qu'on a tendance à vouloir choisir des personnes extraordinaires, des destins fracassés, des gens hors normes, ce qui est normal, et ce qui est en plus plus facile, parce qu'on a le secours justement d'accidents, de tragédies, de drames, de je ne sais pas quoi. Bon. Et raconter des vies toutes simples, c'est parfois beaucoup plus compliqué, surtout qu'en plus, moi, j'ai, si je puis dire, complexifié la donne, en ne me donnant aucun secours romanesque, parce que j'aurais pu dire c'est une famille décomposée, recomposée, divorcée, ou alors c'est plein de règlements de compte, genre c'est Festen, ou je sais pas quoi, le fils déteste ses parents, bon, il y a des règlements de compte. Pas du tout. C'est juste des gens qui s'aiment et qui se séparent. Point. Je préviens les gens qui nous écoutent et qui vont peut-être me lire, il ne se passe rien d'autre dans le livre, rien d'autre. Sauf que c'est l'essentiel, ouais. Sauf que c'est la vie, ouais. C'est juste toute la vie, mais il faut la raconter. Et donc ça m'intéressait, ce défi d'aller vers une sorte de nudité, de simplicité, qui va aussi avec mon écriture. Là, pour le coup, elle aussi, au fil des 20 années, elle s'est simplifiée, elle est allée vers une forme de nudité, de dénuement, cette écriture. Je recherche ça, cette blancheur, voilà, l'idée de tout enlever, de ne pas alourdir, de ne pas en rajouter, de pas mettre 14 adjectifs pour faire malin, ou de ne pas balancer son érudition. Au contraire, il faut en enlever, il faut s'alléger.
Il y a une forme d'enfermement aussi dans ce livre, même si sans parler de la fin, il y aura quand même une lumière. Vous l'avez écrit dans quelles circonstances, Philippe Besson, ce roman ? Avant ou pendant le confinement ?
Je l'ai écrit avant et après, et pas du tout pendant. J'ai très très mal vécu le confinement, je trouvais que c'était une période affreuse, comme beaucoup de gens d'ailleurs, alors que j'étais persuadé que j'allais le vivre bien, parce que je me suis dit, un écrivain ça a besoin de solitude et de silence, donc le confinement c'était parfait, je me suis dit j'ai les deux d'un coup, sauf que je me suis rendu compte assez rapidement que la solitude choisie de l'écrivain n'avait absolument rien à voir avec cette espèce de claustration imposée, cet enfermement contraint, c'était atroce, et puis le silence que j'aime tellement n'avait rien à voir avec ce vide de la ville, il y avait juste des patrouilles de police et des attestations à montrer. Enfin, il y avait quelque chose d'atroce dans ce désert urbain. Et donc, ça m'a rendu parfaitement infécond, parfaitement infertile, incapable d'écrire le moindre mot, dégoûté par tout ça, sidéré d'abord et dégoûté ensuite. Et donc, j'ai attendu la fin du confinement pour être capable de retrouver l'écriture. Là, je l'ai retrouvé avec bonheur, gourmandise. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Mais pendant le confinement, non, la sécheresse absolue.
Sachant qu'en effet, vous êtes un garçon plutôt actif, toujours en mouvement. Vous vivez aussi beaucoup en alternance aux États-Unis, à Los Angeles plus exactement. C'est une situation dans laquelle vous devez vous sentir totalement entravé.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je n'aime que le mouvement. C'est-à-dire, je l'ai découvert ça très jeune dans ma vie, que j'avais besoin d'aller voir ailleurs si j'y étais. Et en général, d'ailleurs, j'y suis. Ça tombe bien. C'est d'ailleurs pour ça que je recommence à y aller, parce que c'est là que je me trouverai le plus facilement. Et la vie que j'ai m'a donné l'énorme privilège de pouvoir voyager. J'en suis absolument conscient. Donc, je pars tout le temps, je voyage tout le temps. Beaucoup, effectivement, aux États-Unis, notamment en Californie où je vis une partie de l'année, mais aussi en Italie, mais aussi ailleurs. Bon, et c'est vrai que là, l'idée de plus pouvoir, enfin d'être contraint à l'immobilité et contraint à toujours avoir dans le regard le même paysage, c'est atroce. Moi, j'ai besoin justement de changer de paysage, j'ai besoin de voir des lieux autres, j'ai besoin de voir des bouts de ciel, et là, j'avais rien. Enfin, comme tout le monde, encore une fois. Hein. Donc, ma situation était d'ailleurs loin d'être la pire. Mais fondamentalement, voilà, moi qui ai tellement l'habitude du mouvement, j'ai vécu ça comme une entrave. Le mot entrave va très bien, c'est ça.
Et à défaut d'écrire, vous avez lu?
Oui, j'ai lu. J'ai beaucoup lu. Alors, j'ai toujours, comme on dit, rattrapé son retard. C'est-à-dire qu'il y a des choses, vous avez des livres qui s'empilent et que vous ne lisez jamais. Donc là, j'en ai profité. Et puis, ça m'a permis de revenir aussi vers des livres que je n'avais pas lus depuis très très longtemps. Parce qu'au début, tout le monde dit, on va relire ces classiques. Je me disais, tu parles pas du tout, on relit pas les classiques, en fait. Et ben, finalement, on finit par le faire. On en relit quelques-uns. Donc, j'ai relu Le Rouge et le Noir, que j'avais pas lu depuis, je pense, 15 ans. J'ai relu Les Odeurs-le-Vent, que j'avais pas lu, je pense, depuis 20 ans. Et donc, c'était agréable de se replonger dans ça. Mais j'ai lu, alors, dans le deuxième confinement, celui d'octobre-novembre, j'ai lu des livres de la rentrée, pour le coup. Par exemple, j'ai été scotché, emballé, admiratif devant le livre de Laurent Mauvignier, Histoire de la nuit, que j'ai trouvé un... Mais chez De Vral, enfin, un livre majeur, monumental, j'ai été impressionné par ça. J'ai lu Marie-Hélène Lafon, Histoire du fils, choses comme ça. Ça me plaît beaucoup d'aller vers les mots des autres. Et c'est vrai que le confinement, de ce point de vue-là, c'était sa seule utilité. C'est qu'on pouvait se fabriquer une vie intérieure et que, de toute façon, la seule culture qui nous était accessible, hélas, à ce moment-là, si j'exclus Netflix, c'était ça, puisque théâtre fermé, cinéma fermé, salle de concert fermée, opéra fermé, salle de danse fermée, il fallait bien, voilà, il restait des livres. Et donc, j'ai beaucoup lu, oui.
Est-ce que votre maman a lu Le Dernier Enfant ?
Oui. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle l'a lu très vite, ce qui n'est pas du tout son habitude, puisque ma mère, traditionnellement, lit mes livres en général avec 6 mois de retard. Ce qui m'a toujours amusé, parce qu'elle l'a avant tout le monde, mais elle le lit après tout le monde. Bon, je pense que c'est une façon de se protéger, en fait, et de, voilà, parce qu'elle ne sait jamais ce qu'elle va trouver dans mes livres, donc toujours un peu inquiète. Puis elle ne s'est jamais habituée à ce qui va avec, c'est-à-dire la publication et donc le rôle public. Donc, voilà, quand elle me voit à la télé ou à la radio, elle est toujours un peu déconcertée. Et donc, ce vacarme ne va pas avec la lecture pour elle. Donc, elle attend que le vacarme cesse pour me lire. Sauf que là, elle m'a lu tout de suite. J'imagine, parce que le livre lui était dédié et qu'elle a compris en lisant la quatrième de couverture, parce que je n'en avais pas parlé avant, évidemment, que peut-être elle allait s'y retrouver un peu. Et c'est étrange parce qu'au fond, il s'est passé quelque chose qui est très métaphorique de ce que nous sommes, ou symbolique de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait beaucoup aimé le livre et qu'elle était très émue. Mais en fait, les mots se sont arrêtés très vite pour être remplacés par des sanglots. Et au fond, c'est comme ça chez nous. On ne sait pas dire les choses. Mais tant pis, hein, c'est pas grave, ou tant mieux. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été capable de finir la phrase. Et je me dis, c'est comme ça depuis toujours, en fait. On ne sait pas se dire, on ne sait pas parler. Voilà, et on n'arrivera jamais à le faire, je pense, mais c'est comme ça. Je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que je suis devenu écrivain, pour faire un sort à ce silence. Parce que moi, j'ai grandi dans ce silence sur les sentiments, cette impossibilité à dire, cette nécessité de comprimer tous les sentiments et toutes les émotions. Et donc, j'écris exactement l'inverse de ça. C'est-à-dire, je suis l'écrivain du sensible, du sensoriel, du sensuel, tout ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, j'exprime les choses. Et voilà, mais j'ai été très ému. Enfin, je suis très reconnaissant à ma mère de ce moment-là que nous avons vécu, elle et moi. Mais nous n'avons pas pu en passer par les mots. Nous ne savons pas en passer par les mots.
Heureusement que la littérature existe donc.
Mais je crois depuis toujours, et pas seulement la mienne, et d'une manière générale, c'est que je pense que les livres, ça sert à ça. Ça sert à ressentir des choses qu'on n'aurait pas ressenties autrement, mais ça sert aussi à reconnaître des choses que nous vivons et que nous n'aurions pas su exprimer. Et parfois, quand on offre un livre à quelqu'un, c'est parfois comme une déclaration d'amour.
Pour mettre des mots sur les sentiments.
Absolument.
Merci beaucoup Philippe Besson.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de ce nouveau roman, Le Dernier Enfant, qui a paru aux éditions Julliard.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
L'épopée des musiques noires.
Il y a 100 ans, le saxophoniste Colin